Alors, retour en classe aujourd'hui après la relâche. On est dans la dernière étape pour avoir le bulletin final, donc au mois de juin. Et là, il y a tous les enjeux pour les élèves en difficulté, le parascolaire qui est en préparation. Bref, est-ce que le ministre Roberge, à qui on a parlé tantôt, est toujours l'homme de la situation?
Écoute, moi, je te dirais que il est pas plus mauvais qu'un autre. Tu compares avec, mettons, Mme Mécan à la santé, aux personnes âgées.
Marguerite Blais.
Madame Blais.
À toi, les noms, hein?
Là, les noms, c'est pas fort, mon affaire. Madame Blais, tout le monde a fait des erreurs, là. Dans tous les domaines, tu regardes Benoît Charrette à l'environnement, partez-moi pas là-dessus, mais en tout cas. Fait que là, tu sais, tout le monde a fait des erreurs. Mais M. Robert, j'ai un style qui a réussi à lui attirer des bosses. Comment ça se fait que Marois Risky, Véronique Yvon, puis Mme Labrie, ils ont toutes tombé dessus avec... une brique puis un fanal. Pourquoi? Pourquoi lui? Mais parce que c'est son style de communication à toujours vouloir lisser ce qui se passe. C'est comme un enfant qui aurait mis le feu dans un garde-robe puis là, qui se présente à la table de la salle à manger avec un petit sourire. « Non, non, tout va bien, pas de problème. » Ben, dis-le donc qu'il y a le feu dans le garde-robe, tu sais, parce que ça va aider tout le monde. Et lui, non, il lisse tout le temps le message. Ce matin, je l'entendais dire... Pour les masques. On a eu un avis de la santé publique, puis là, finalement, on a décidé que le masque, ça serait bon en classe. Un instant, là, l'Ontario l'exige depuis des mois et des mois. La moitié des pays du monde l'exige depuis des mois et des mois. Le fait de le demander à la santé publique, c'est un truc pour le retarder, ça. C'est pas on attendait. Non, non, t'attendais pas. T'es un leader, t'as des informations qui viennent du monde entier, tu peux prendre la différence. Et ce qu'il fait, monsieur...
Roberge.
Ah là, c'est parce que je suis parti, c'est comme un bégaiement, ça. Donc, ce qu'il fait, M. Roberge, c'est que quand la santé publique est extrêmement prudente, là, il dit « j'ai suivi la recommandation ». Quand la santé publique est proactive, là, il ne suit pas la recommandation, mais il ne le dit pas. Par exemple, les demi-classes, il n'a pas dit qu'il ne suivait pas la recommandation de la santé publique. L'aération, il est allé demander une étude sur l'aération alors qu'il y en avait 100 000, puis l'étude a dit « ben, il y a 100 000 études, puis ils ne sont pas toutes concluante, fait que ça a retardé pendant des mois et des mois et des mois le débat sur l'aération. Alors, ce style de communication-là irrite.
Bien, ce qu'il faut dire, c'est que rares sont les ministres qui ne font pas l'objet de critiques. Dans le cas de François Roberge, Jean-François Roberge, ce qui est frappant, c'est que depuis sa nomination en octobre 2018, la critique à son endroit semble assez soutenue et constante. Et je dirais qu'en période de pandémie, ça a contribué à exacerber les critiques à son endroit. C'est comme si le ministre semblait... C'est comme si le ciment n'avait pas pris, en fait, avec les enseignants, avec sa clientèle, un. Puis deuxièmement, c'est comme s'il était toujours en décalage avec la réalité. Tu lui posais la question ce matin. Et ça fait en sorte que le ministre, on a toujours l'impression qu'il est en retard sur la réalité. Tu sais, plutôt que d'être deux coups d'avance, lui est deux coups en retard. Mmh. Et la proactivité en politique, c'est méga important. Tu le disais, il se réfugie derrière la santé publique quand ça fait son affaire. Mais évidemment, quand ça fait pas son affaire, c'est comme « Ah, ben c'est moi qui ai pris la décision ». Le ministre de l'Éducation dans un gouvernement, c'est un rôle extrêmement stratégique. Et si Jean-François Roberge est toujours, entre guillemets, l'homme de la situation, c'est parce que François Legault le veut ainsi. Il n'y a pas si longtemps, écoute, parce qu'on a déployé une opération sauvetage autour de Jean-François Roberge. On lui a désigné un nouveau directeur des coms. On lui a désigné un rédacteur de discours, un nouveau directeur de discours, un nouveau sous-ministre. Il y a des ministres au sein du gouvernement qui ont eu la tâche un peu plus difficile. Je pense entre autres à Daniel Mécan, à Marie-Chantal Chassé, à Sylvie Damour, trois femmes, soit dit en passant, qui se sont vues montrer la porte.
Alors, t'es en train de mettre la table pour le prochain sujet.
Ouais, oui, non, mais honnêtement, non, mais c'est frappant, tu sais, quand tu regardes ça. Mais moi, je crois que son vrai test, le test de vérité pour le ministre Robert, ça va être en juin. Qu'est-ce qui va arriver avec les taux d'échec, le programme de tutorat qu'il a pris l'engagement de mettre sur pied? Toutes ces questions importantes, le retard chez les élèves. Là, il nous a annoncé des espèces de camps, là, de rattrapage, etc. On ne sait pas trop, ça va avoir l'air de quoi. Mm-hmm. Alors, moi, je pense que le véritable test pour lui, c'est juin. Mais en même temps que je vous dis ça, il n'y a pas grand monde au Conseil des ministres ni au caucus des députés qui lèvent la main pour être ministre de l'Éducation, là.
Hein? Pas dans le contexte actuel.
Non, surtout pas dans le contexte actuel. Non, mais c'est vrai. En fait, il y a quelques exceptions à la règle. Lui, je crois qu'il voulait être ministre de l'Éducation parce qu'il a été critique. C'est un enseignant de profession. Mmh. Il a été critique dans l'opposition en la matière. Mais il y a quelques exceptions, entre autres à la santé. Christian Dubé qui a levé la main pour être ministre. Tu dis, coudonc, il est fou, qui est naïf, un des deux. Puis Gaëtan Barrette aussi qui a levé la main pour être à la santé. Alors, c'est quand même un ministère important, faut-il le rappeler. Là, il y a des le budget du ministère, là, les dépenses là, de programme, c'est quoi? C'est plus de 22 milliards de dollars.
Puis tu as un contexte de négociation collective aussi. Il faut jamais oublier ça. Là.
Non, c'est ça. Effectivement, il y a personne qui lui fait donne une balle facile. Le gouvernement est arrivé au pouvoir en disant on va corriger une situation. Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus les moyens pour le faire. Et non seulement ils ne corrigent pas la situation, mais ils ont gardé leurs exigences comme s'ils allaient corriger la situation. Alors, ils demandent plus de présence en classe. Ils veulent 40 heures minimum, puis ils demandent moins d'absentéisme, mais sans donner l'augmentation de salaire qui va avec, ou enfin, une augmentation de salaire forfaitaire est ridicule. Benoît Charrette. Monsieur Robert, j'arrive comme les autres ministres de la CAQ, je trouve, avec une difficulté. C'est qu'ils sont arrivés avec un ensemble de promesses bien définies, raffinées depuis des années. Et ça, c'était le coffre à outils. Et là, il arrive avec le coffre à outils, puis c'est pas les bons outils qu'il y a dedans. C'est-à-dire que oui, ce qu'il avait proposé est pas inintéressant. Maternelle 4 ans, réinvestissement dans les immeubles, règlement de la convention collective, augmentation des heures en parascolaire, très bien. Mais en pandémie, c'est produit 1000 autres problèmes. Et là, pour les 1000 autres problèmes, c'est attendez, on va voir, on va étudier, on va regarder. Je pense que, par exemple, la question du tutorat, la base de l'éducation, là, c'est enseigner, OK? Fait que là, il y a enseignement au tableau pour un groupe de 30, puis le tutorat, ça devrait faire partie du groupe enseigner, ça. Ça devrait faire partie du package. Mm. Ça a pris des mois et des mois et des mois pour arriver à quoi? On est en mars, et là, on apprend qu'il va y avoir quelques heures, 3-4 heures par enfant qui a des problèmes, qui n'ont pas été identifiés, avec du personnel qu'on ne sait pas si ça va être s'il va être disponible ou pas, alors qu'on n'a pas été capable de remplir tous les cas de classe qui n'ont pas de professeurs à temps plein. Ça a l'air de l'improvisation, ça a l'air de ralentir, on dirait qu'il pédale dans choucroute. Prends le micro, là, puis dis, on n'a pas les ressources pour faire du tutorat, on va le concentrer non pas sur les 30% qui ont des problèmes, mais sur les 10%. Ben ouais, Fais preuve de leadership. T'es un leader de la société, t'as des milliards à gérer. Crime-pof, dis-nous la vérité, puis prends le micro, puis dis ce qui va se passer.
Il a dit la vérité, tu sais, je vais pas prendre sa défense, mais tantôt, il a dit justement sur le programme de tutorat, ça s'en vient, là. Ben on a fait appel à des étudiants à l'université, on a fait appel à des enseignants à la retraite, on cherchait 800 personnes, 850 personnes, il semblerait que ça s'en vient. L'autre chose, il va dire, ben j'ai augmenté le financement pour aller au prof, pour tel jeune. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le ministère de l'Éducation, c'est encore une grosse machine, puis quand t'es ministre d'Éducation, là, oui, tu pédales dans choucroute, parce que c'est pas toujours évident d'être proactif. Moi, ce qui me choque cependant, c'est d'entendre un ministre dire « Regardez, on a aboli les commissions scolaires puis on les a transformées en centres de services scolaires. Hey, à ta minute, là, ça a changé quoi dans la vie de nos élèves? Ah, » Écoute, ça n'a absolument rien, j'allais pour
mais
dire
c'est parce
autre
chose, que l'éducation, là, quand on regarde ça objectivement, c'est assez le parent pauvre. Tu sais, je regardais la valse des ministres libéraux dans le temps, les derniers. Là, Yves Bolduc n'a pas pris l'éducation parce qu'il tentait. Là. Mm. Il a pris ça par défaut. François Blais, ça a fait un passage pas très remarqué. Il n'est pas allé à l'école une fois, je pense, tu sais, sur les lieux. Ce que je veux dire par là, c'est que les ministres passent,
oui.
Puis la machine a l'air de dire, bon, on va attendre le prochain.
Exactement.
Puis, c'est pas plus grave que
oui,
ça.
Oui, mais c'est ça. Mais je disais tantôt, c'est quoi la moyenne la durée de moyenne d'un mandat?
Deux
ans, effectivement. Les gens se bousculent pas parce que c'est comme si la machine était devenue trop grosse. Puis un ministre qui arrive avec plein de bonne volonté, qui veut faire preuve de leadership, bien, souvent, il se fait ramasser par les syndicats d'enseignants parce que c'est jamais assez, ou encore, il se fait réfréner par la machine. Marquez que moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras parce que l'éducation, écoute, oui, tu l'as dit, Paul, c'est un ministère important. On a besoin d'avoir un ministre qui est à son affaire et qui veut le bien et le bien-être des enfants.
J'ai une proposition. Okay. Si c'est un ministère qui est difficile, avec une machine qui est difficile, avec un gouvernement qui fait des annonces puis qui se tient à ces annonces-là puis qui n'est pas très fort après pour aller au-delà des annonces, ben, dites-nous ce qui va se passer après la prochaine échéance électorale. Vous allez être encore ministre, M. Robert. Je vous le souhaite d'ailleurs d'être encore ministre. Là, vous avez l'expérience du mandat actuel. Là. Dites-nous, c'est quoi les solutions pour les 4 prochaines années, les promesses, les budgets qui vont avec, les modifications organisationnelles, les modifications à la convention collective. On attend ça.
Pause au retour, journée des droits des femmes, 8h41. Et on va jeter un coup d'œil sur la 25.